Alors, il est 8h30, on va peut-être inaugurer cette série de cours du soir, du jeudi soir. Alors, je vous présente l'abbé Albert Vinel, notre ami, ancien étudiant de l'Institut, mais aussi d'autres instituts de l'Université de Louvain, évidemment, qui est curé actuellement à Waterloo, à la paroisse Saint-Joseph, et donc qui fait le trajet pour venir nous parler. Et voilà, je te remercie beaucoup, Albert, d'avoir accepté cette série de cours qui n'a pas été facile à organiser parce que, notamment, il y a donc 4 interventions de l'extérieur, hein, 2 par l'abbé Paul de Clercq et puis Monseigneur de Kesel et même le cardinal Danels viendra. Vous avez vu cela dans votre programme. Alors, le cours se déroulera comme souvent, les cours du soir. Ça veut dire qu'il y aura 1 heure d'exposé. Et puis une petite interruption de 5-7 minutes. Et ceux qui veulent peuvent encore rester pour poser des questions. Et jusque 22 heures environ. Pendant ce temps-là, évidemment, les autres peuvent quitter la salle. Et la porterie sera ouverte de manière à ce que personne ne reste enfermé dans le collège la nuit, hein, à cause de son assiduité. Voilà. Alors, je signale encore que les étudiants extérieurs, ceux qui ne sont pas donc inscrits à l'IET, doivent s'inscrire comme étudiants auditeurs libres. On prend une feuille dans le casier bleu à cet effet et on remet la feuille dans l'autre casier bleu où c'est indiqué donc feuille d'inscription remplie. Voilà, alors veuillez bien faire cette démarche cette fois-ci ou la fois prochaine, en tout cas disons dans les 2 ou 3 premiers lundis. Jeudi, il faudrait que cette démarche soit bouclée. Voilà, je laisse la parole à Albert et je crois que tu vas parler plutôt au micro fixe.
Merci Bernard. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Le titre de ces rencontres est plutôt audacieux. Comment ne pourrait-on pas être audacieux quand on parle de rencontrer Dieu ? Et cela tombe d'autant mieux, si je puis dire, que, comme vous le savez, les évêques de Belgique proposent également ce thème de la rencontre de Dieu, non pas au cœur de la liturgie, mais au cœur de la parole de Dieu. Le sous-titre, vous l'avez lu, « À tout et obstacle pour aujourd'hui », nous aurons l'occasion d'y revenir à maintes reprises, tout au long du cycle de ces conférences, car elle voudrait être non pas exclusivement théorique, mais bien entendu articulée sur un vécu liturgique qui, grâce à Dieu, est aussi varié que nos communautés chrétiennes. Et pour ma part, je parlerai largement avec l'expérience d'un curé de paroisse pendant plusieurs années, une petite paroisse dans le Brabant wallon qui bénéficie, comme vous le savez, d'un apport important de ce qu'ils appellent de bruxellois, car dès qu'on est né à plus de 8 km du clocher de ce village, on est bruxellois. Et donc, en fait, cet apport important de nouveau dans les villages est, je crois, une chance pour l'Église et pour la liturgie. Et puis maintenant, je suis curé dans une plus grosse paroisse, plutôt citadine, Waterloo, 15 000 habitants, où je suis fort confronté avec des, comment pourrait-on dire ça, des peu croyants, des chrétiens du seuil qui demandent des sacrements ou de la liturgie, mais qui, au niveau de l'expression de la foi, ne sont pas aussi explicites que ce qu'on a appris lors de nos cours de théologie ou de liturgie. Souvent de très chouettes rencontres, particulièrement pour préparer les demandes de sacrements. Ce soir, comme vous l'avez vu dans le programme, je voudrais évoquer avec vous une thématique un peu, non pas compliquée, mais un peu sèche, un peu raide, puisque il sera beaucoup question de mots, de vocabulaire, de termes, puisque vous savez sans doute que le mot liturgie a beaucoup évolué au cours de l'histoire et c'est important de voir un peu clair dans cette évolution de la signification du mot liturgie, car liée à cette évolution, il y a une évolution importante du contenu de la liturgie. Vous savez sans doute que pendant très longtemps, en Occident en tout cas, on s'est représenté la liturgie chrétienne comme une action qui vient de l'homme. L'homme se met à genoux ou sur la pointe des pieds et il cherche un contact avec Dieu au travers de l'offrande de son temps et, dans le meilleur des cas, de son adoration. Aujourd'hui, pour esquisser les choses à grands traits, c'est l'inverse qui est vrai. La liturgie, aujourd'hui, est davantage comprise, à juste titre, comme une action non pas de l'homme, mais foncièrement de Dieu. Une action de Dieu, donc, ces deux termes sont importants. D'abord parce que, en liturgie, il s'agit foncièrement d'un agir dont l'initiative revient à Dieu. Et nous verrons avec beaucoup d'insistance au cours de ces conférences à quel point notre liturgie chrétienne trouve son fondement, ses racines ultimes dans ce qu'on appelle le mystère pascal du Christ, à savoir sa mort et sa résurrection, inséparablement. Et en nous associant personnellement et communautairement au mystère de la Pâque de Jésus, la liturgie, en fait, pour reprendre la promesse de saint Paul aux Philippiens, au chapitre 3, la liturgie vise à nous combler jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu, rien de moins. Donc, on disait que la liturgie est une action de Dieu. Et dès la prochaine conférence, on insistera fort sur ceci. La liturgie, ce ne sont pas d'abord des textes, ce n'est pas d'abord un discours sur Dieu, c'est une action. Et comme toute action, c'est une action qui n'existe que dans la mesure où on l'exerce, où on la pose. Il est fondamental aujourd'hui, en tout cas c'est ainsi que la sacramentaire et les liturgistes abordent la liturgie, il est fondamental de bien voir que comme il s'agit foncièrement d'une pratique, d'une pragmatique, d'un agir, cet agir implique des lois d'interprétation, de compréhension, qui ne sont pas les seules lois d'interprétation des textes. Ce n'est pas pareil, une action ou un texte. Ce n'est pas contradictoire, mais ce n'est pas identique. Comme toute action, l'action liturgique a un mouvement, un rythme propre, une unité qui se doit être dynamique, et ce mouvement, cette dynamique, cette unité ne sont pas réductibles à la somme des acteurs en liturgie. On ne peut pas réduire cela à la somme des gestes ou des textes. L'action liturgique est fondamentalement une, et nous aurons l'occasion d'y revenir largement. Je crois que c'est le plus grand challenge, le plus grand défi pour nos liturgies. C'est précisément de percevoir l'unité de l'action liturgique. Je vous donne un exemple que beaucoup ont déjà rencontré comme difficulté. Nous y reviendrons. Vous savez que le Concile Vatican II, en parlant de la liturgie, a redécouvert une insistance très patristique, à savoir que dans la messe, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie, il y a fondamentalement deux tables. Il y a la table du pain et la table de la parole. Dire cela ne suffit pas, car en fait, en l'énonçant, vous juxtaposez les deux tables, la parole et le pain. Le challenge, à la fois du point de vue théologique et surtout du point de vue pastoral, c'est l'articulation des deux tables. Comment peut-on célébrer l'Eucharistie en évitant de juxtaposer, un, la liturgie de la parole, et ensuite la liturgie du pain? Pour ceux d'entre vous qui sont familiers à des célébrations avec des jeunes, et je pense en particulier avec des très jeunes, avec des classes, c'est très frappant de voir que tant que nous sommes dans la liturgie de la parole, c'est à peu près calme. Dès qu'on passe à la liturgie eucharistique, en fait, ça bouge nettement plus. Si pas la langue, en tout cas les pieds, les vestes, les cheveux, etc. Soyons entre parenthèses, donc dans notre paroisse actuellement à Saint-Joseph, donc je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 5000 élèves sur le territoire de la paroisse. Et je me suis dit, mais au fond, le Christ est mort pour ces jeunes aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, depuis 2 ans à peu près, je me suis fort investi dans des célébrations et dans des animations de récollection pour des jeunes en scolarité, moins les primaires. J'ai un assistant paroissial qui fait ça admirablement, mais beaucoup dans les écoles secondaires. Et c'est du reste ce qui m'a incité à vous proposer un partage sur la problématique liturgie et jeûne. Donc, je disais que, je vous rappelais que la liturgie est fondamentalement une action qui n'existe que dans la mesure où on l'exerce, que cette action, comme toute action, a un mouvement, un rythme propre, une unité qu'on ne peut pas réduire à la somme des acteurs, des textes ou des gestes qui sont posés. La liturgie, fondamentalement, ce n'est pas d'abord dire quelque chose, mais c'est faire quelque chose. Et j'ajouterais, s'y laisser faire. C'est un aspect essentiel de la liturgie. Dans la liturgie, on fait quelque chose et on s'y laisse faire. Et ceci va nous permettre de mieux comprendre ce que certains spécialistes, je songe à un des grands noms en sacramentaire contemporaine, en tout cas dans l'espace français, francophone, Louis-Marie Chauvet. En fait, sans doute que la première loi de la liturgie porte sur la manière même de faire. Ne dites pas ce que vous faites, faites ce que vous dites. C'est une règle en or pour la pastorale liturgique. Ne tuez pas la liturgie à coups de commentaires. Et maintenant, je vais prendre l'eau dans les fonts baptismaux, maintenant je vais lever la main, et maintenant je vais verser l'eau sur la tête du bambin. Et donc, en fait, le signe est déjà mortellement atteint à cause de nos commentaires inutiles. Donc, ne dites pas ce que vous faites, faites ce que vous dites. Par exemple, pour être bien concret, il est inutile d'expliquer longuement que nous sommes dans la joie de grâce, que le chant lui-même exprime cette joie et qu'il y contribue. Autre exemple, c'est, et il est important, c'est le fond comme la forme du célébrant lorsqu'il dit « Prions le Seigneur ». Quand il le dit en regardant avec des yeux courroucés l'organiste ou la chantre ou les catéchistes qui ne parviennent pas suffisamment à mater à son goût les enfants de la catéchèse, bien en fait, c'est plutôt loupé. Prions le Seigneur. Saint Benoît, comme vous le savez, comme beaucoup le savent, avait une formule extraordinaire pour dire cela. Mens concordet voci. Grâce que l'esprit, on dirait aujourd'hui en termes sportifs, que le mental concorde avec le vocal, avec ce qui est exprimé. Le faire en liturgie a priorité sur le dire, ou plutôt, ce qui est réellement dit, c'est ce qui est fait. Et c'est particulièrement frappant lorsque vous célébrez la liturgie ou les sacrements avec des personnes qui possèdent peu de codes pour entrer, pour comprendre ce que nous appelons les symboles liturgiques. Ce qui est dit, c'est ce qui est fait. Même si on passe parfois bien du temps à préparer des homélies ou des introductions, en réalité, l'impression, et plus encore dans bien des cas, la mémoire que vont conserver bon nombre de participants à la liturgie, en tout cas les chrétiens du seuil, c'est ce qui a été fait. Ceci a des conséquences importantes pour la pratique de la liturgie, en paroisse ou ailleurs. Et oserais-je vous rappeler cette invitation du Seigneur, faites ceci ou faites cela en mémoire de moi. Au fondement de toute liturgie chrétienne, il y a un agir. Faites cela en mémoire de moi. Vous savez sans doute qu'il en va pour la liturgie comme pour la vie. Beaucoup de problèmes viennent davantage des surattentes que des non-attentes. Beaucoup de problèmes en liturgie vient davantage des surattentes que de nos attentes. C'est vrai aussi, je pense, dans le monde affectif et relationnel. Beaucoup de conflits naissent de ce que j'attends trop ou mal. C'est vrai également pour la liturgie, même chez des peu pratiquants. Parmi les chrétiens qui s'intéressent à la liturgie, bon nombre attendent beaucoup des célébrations. Mais peut-être qu'ils en attendent trop. Ils attendent quoi ? Eh bien, de la festivité, pour briser la monotonie du quotidien, de la prière, pour compenser la suractivité d'une semaine de travail chargée, de la théologie, pour élucider les multiples questions qu'ils se posent, une parole chaleureuse, voire des témoignages entre guillemets percutants, pour se remonter le moral, du silence pour se reposer du stress de la semaine, un sentiment d'appartenance à une communauté ou un lieu de relation pour contrebalancer l'anonymat des villes, etc., etc., etc. Ces demandes plurielles sont normales et elles sont là. Il est essentiel de les accueillir comme Jésus accueillait ceux et celles qui s'adressait à lui. C'est normal qu'il y ait un pluriel de demandes et un pluriel d'attentes, et également des surattentes. Car l'existence proprement chrétienne, la vraie, n'existe que dans le quotidien, pas dans les livres ni dans la théorie. Seulement, la liturgie croule sous la multiplicité de ces demandes dont beaucoup sont contradictoires. Par exemple, comment peut-on honorer à la fois le silence et la festivité ? Qui parmi vous, membre d'une équipe liturgique, n'a pas rencontré cette croûte, ce dilemme ? Comment à la fois vivre l'intériorité et le silence et le festif ? C'est possible, mais ça ne va pas de soi. Le premier éclairage utile pour clarifier et gérer la variété de ces attentes est sans doute de rappeler que la liturgie chrétienne, dans son origine comme dans son projet, est une action. On y a déjà bien insisté. Et il faut préciser aussitôt que cette action est rituelle. Or, la première caractéristique du rite, c'est sa répétitivité. Le rite est répétitif. Et par définition, un rite, s'il est rite, va se reproduire ou se produire plus d'une fois. Car le rite consiste essentiellement dans la reprise de comportements programmés d'avance, auxquels du reste, via ce programme, on se reconnaît. Cet aspect programmé est une deuxième caractéristique du rite, à côté de sa répétitivité. Et ainsi, quand on voit, par exemple, à la maison communale ou devant une église, un groupe de personnes entourant une dame en robe blanche, on se dit « c'est un mariage ». Dans toute religion, il y a une rupture entre la scène rituelle par rapport à la scène quotidienne ou la scène de vie ordinaire. L'espace, les ustensiles, le langage sont, comme disent les spécialistes, en décrochage avec le quotidien. Et c'est voulu. Il y a d'autres circonstances où on retrouve des dames avec des robes blanches. Mais lorsque, dans ces circonstances-là, la dame en robe blanc, entourée festivement, avec ou sans limousine, c'est le cas à Waterloo. Ça me fait penser à une histoire, quand j'ai commencé à découvrir cette paroisse. Première question. Est-ce que, s'agissait d'un mariage, est-ce qu'il y a un tapis rouge ? Je dis non. Ah, c'est embêtant. Mais je dis, écoutez, vous pouvez prendre les pages jaunes du téléphone, peut-être en trouver. Est-ce qu'il y a moyen de parquer deux limousines ? Parce que, vous comprenez, chacune des voitures est aussi longue qu'un autobus, et donc nous ne serons pas tournés si vous ne faites pas dégager toutes les voitures qui longent l'église. Alors j'ai répondu un peu rossement, écoutez, le spectacle à l'intérieur c'est moi, mais à l'extérieur c'est vous. Allez au commissariat de police et demandez qu'on dégage les voitures. ce que la police n'a pas fait. Et après ça, je vous parle de l'importance d'accueillir la demande de fiancé. Mais j'évoquais cet exemple anodin, enfin pour moi, pour évoquer que c'est tout un contexte qui va en fait façonner ce qu'on appelle la ritualité, qui, avec des objets souvent courants, sauf la limousine bien sûr, en fait vont constituer un décrochage par rapport au quotidien, grâce d'une part à la répétitivité, on a déjà vu ça, et grâce à l'aspect programmé. Il y a un dernier aspect du rite, c'est le fait que le rite étant répétitif est perçu comme un ennui, comme engendrant la monotonie. Et donc, on entend ça régulièrement à propos de célébrations avec des jeunes, supprimons le rituel car ils vont s'ennuyer. En fait, l'arbre ici ne doit pas cacher la forêt, car la troisième caractéristique du rite, c'est qu'il est voulu comme unique et particulier. Et ceci ne contredit pas la répétitivité. Je prends l'exemple du mariage. Les rites d'un mariage comprennent un programme, c'est-à-dire soit un lieu officiel, soit un lieu de culte, une parole d'engagement devant une personne habilitée à la recevoir. Il y a également un repas, il y a la fameuse robe dont j'ai déjà parlé, donc toute une série d'éléments qui sont programmés, mais qui en réalité sont vécus à ce moment-là par ce couple-là comme uniques et particuliers. Car en fait, même si on repose les mêmes gestes et si on redit les mêmes paroles que générations de couples qui nous ont précédés, en réalité, ce couple-là, pour ce couple-là, ce mariage est unique. Il célèbre l'alliance unique de deux personnes qui sont désormais unies en un seul destin. C'est la première et la seule fois que cette union-là aura lieu dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, quand on accompagne des fiancés pour les préparer au mariage sacramentel, dès que on compare ce couple à d'autres, ils sont profondément agacés, car ils ont le vif sentiment d'être absolument uniques. Et donc, c'est une fameuse gaffe de dire « Ah ben oui, habituellement, les couples font ceci, ou on demande cela. » Ils n'aiment pas ça. Revenons maintenant à quelque chose d'un peu plus aride, mais que je crois relativement important, car, comme vous le savez, la liturgie est un domaine qui peut susciter de grands débats et parfois même des combats. Pas simplement dans des communautés de prière, pas simplement dans des communautés religieuses, mais également en paroisse, bien sûr. Et donc c'est un lieu où beaucoup de tensions se retrouvent, se cristallisent et parfois se déchaînent. Parce que la liturgie sollicite très fortement non seulement la spiritualité, mais également l'affectivité et l'identité. Tout ce qui est identitaire, quand vous y touchez, vous risquez de provoquer un tsunami ou quasi. Alors, pour ouvrir cette parenthèse que je vais refermer rapidement, lorsqu'on parle d'identité, bien entendu, notre identité n'est jamais constituée d'un seul élément. Notre identité à tous est toujours un puzzle. Mais lorsque quelqu'un a le sentiment qu'on touche à cette pièce de son puzzle qu'il appelle son identité, il risque de réagir, même parfois de rugir. Et donc, pour passer, si vous voulez, non pas à côté, mais pour aborder avec sérénité des débats, des controverses qui ne manquent pas en liturgie, elles sont peut-être plus nombreuses là qu'ailleurs dans notre foi chrétienne, je voudrais m'attarder un moment ce soir à la signification même du mot « liturgie ». Que veut dire ce mot? Et vous allez le voir, au travers d'un parcours historique sans doute quelque peu indigeste, nous allons retrouver la compréhension que les anciens parmi nous, même, enfin, là je ne suis plus si jeune, et donc même de mon temps, je peux commencer à dire ça, qu'on se faisait couramment dans la liturgie, à savoir fondamentalement un acte subjectif, personnel, dévot dans le sens populaire du terme. Alors, sans remonter à Adam et Ève, mais quand même en remontant au grec classique, donc avant Jésus-Christ, le mot en grec laiturgia signifie littéralement œuvre du peuple. Il est composé d'un substantif ergon, œuvre, travail, et d'un adjectif laitos, qui est dérivé de l'ionien léos ou laos, et qui signifie l'adjectif qui appartient au peuple. Donc littéralement, laiturgia en grec, c'est une œuvre qui appartient au peuple. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Eh bien, dans les fameuses démocraties grecques, laiturgia désignait tout service rendu au bien commun, soit par un citoyen aisé, un mécène, un riche mécène, soit par des municipalités. Par exemple, l'équipement d'un navire, ou encore l'entretien du chœur d'un théâtre grec, ou encore l'hébergement d'une délégation aux fêtes nationales, etc. Ce sont autant de liturgies. Et puis, par extension, le terme va signifier, le mot liturgie va signifier toute prestation de service public, et notamment, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, le service cultuel dans les cités-états grecs. Car, compris ainsi, le culte public est un service rendu aux personnes. Quand on va devoir traduire la Bible de l'hébreu en grec, à partir du 3e mais surtout 2e siècle avant Jésus-Christ, on désigne, comme vous le savez, cette traduction de la Bible hébraïque en grec, on l'appelle la Septante, parce que la légende veut qu'on a confié cela à 70, donc 70 sages qui ont été isolés chacun dans leur alcôve pour traduire l'ensemble de la Bible hébraïque. Et lorsqu'ils ont confronté leur copie au miracle, chaque traduction était identique. Donc c'est archi-faux puisque on possède toute une série de versions grecques différentes de la Bible. Pourquoi en grec? Eh bien, en deux mots, parce que à l'époque, le grec était un peu l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. C'était la langue la plus parlée dans le monde connu d'alors, de notre point de vue, c'est-à-dire le bassin méditerranéen. Et à cause du phénomène de la diaspora, bon nombre de juifs ne vivaient plus en Palestine alors qu'ils pratiquaient encore la religion juive, et déjà à l'époque, il y avait un recul de l'hébreu, rien de neuf sous le soleil, et donc on a souhaité mettre la Bible à la portée de ceux qui ne connaissaient plus l'hébreu pour découvrir le contenu de la parole de Dieu. Donc, la Septante, la traduction grecque de la Bible, va utiliser presque toujours le terme grec laiturgia pour désigner le service religieux rendu à Dieu et au peuple par les prêtres et les lévites, d'abord sous la tente du désert et ensuite dans le temple. C'est donc un terme technique dans l'Ancien Testament qui va désigner le culte public et officiel, le culte conforme aux lois cultuelles lévitiques, un culte qui est distinct de ce qu'on peut appeler le culte privé, qui lui, donc la dévotion personnelle, dans le beau sens du terme, qui va être désigné dans la Bible, non pas par, dans la Bible grecque, non pas par laiturgia, mais bien par latreia, qui est étymologiquement latreia, qui est le service rendu par des gens à gage, le service rendu par des domestiques, par extension le service d'un dieu, l'adoration, et par grande extension encore, les soins du corps ou de l'âme. Dans le Nouveau Testament, laiturgia n'apparaît quasi jamais pour exprimer le culte chrétien. Il y a une exception, c'est Acte 13, verset 2, où il est question du culte que les chrétiens célébraient le jour du Seigneur, et l'Esprit-Saint dit « Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Je fais une parenthèse. Si vous désirez les notes, une copie écrite de ce que je suis en train de dire, vous allez le trouver sur le site internet de la paroisse Saint-Joseph. Et au cas où vous ne connaîtriez pas, je vais vous l'indiquer. sjoseph.be. Et donc, ce soir, en rentrant, je ferai un lien, comme on dit, et vous aurez, au fur et à mesure, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne sais pas, pour le cardinal Monseigneur de Kiesel ou Paul de Clercq, je ne sais pas ce qu'ils proposeront comme texte. Mais donc, les conférences que j'aurai la joie de partager avec vous se trouveront, après avoir été données, sur le site paroissial. Et donc, dans le Nouveau Testament, la liturgia n'apparaît quasiment jamais pour parler du culte chrétien, et sans doute parce que à cette époque, le terme liturgie était trop lié au culte rendu par le sacerdoce lévitique dont on voulait se démarquer. Il y a une exception importante que les étudiants de l'IET connaissent certainement, puisqu'il y a tout un séminaire consacré à cet écrit, c'est la lettre aux Hébreux, qui en fait va parler de Jésus en termes de liturgos, si vous voulez, de liturge avec un grand L, ministre du vrai sanctuaire et de la véritable tente. Et son ministère est qualifié bien supérieur aux liturgies. Dans les autres emplois de liturgie du Nouveau Testament, on retrouve la signification grecque originelle du mot, à savoir un service public. Par exemple, dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, Paul parle de liturgie à propos des impôts. Alors, ceux parmi nous qui doivent en payer sont sans doute surpris par cet usage liturgique pour parler de ceux qui plument notre portefeuille. Et également, on parle de liturgie dans, notamment, toujours chez les Romains, dans la deuxième lettre aux Corinthiens ou chez les Philippiens, pour désigner un service caritatif, notamment une collecte. Et donc, il ne faut pas trop vite sacraliser cela, malgré la tentation pour tout curé de paroisse de parler des collectes en termes de liturgie, mais en réalité, on retrouve bien la signification originelle du terme dans la langue grecque, à savoir un service rendu au peuple. En Orient, chez nos frères orthodoxes, peu à peu, la liturgia va être réservée, et c'est un détail qui n'en est pas un, vous allez comprendre pourquoi dans un moment, la liturgia, comme vous le savez, va être réservée pour désigner l'Eucharistie. Et donc on va parler de la Sainte Liturgie, ce que, au même moment, en Occident, on appelait la messe. Tandis que tout ce qui appartient au cultuel va être désigné, exprimé, soit par le terme télete, qui signifie la cérémonie religieuse, le rite sacré, le mystère, ou encore akoulutia, qui signifie le cortège de serviteurs au départ, la succession, et puis par extension, le formulaire, le rite. Donc, l'Orient chrétien reprend liturgie, mais va restreindre son sens à l'Eucharistie, tandis que l'Occident chrétien va, pendant longtemps, snober le mot liturgie. Donc, on ne le reprend pas. Les traductions latines, quand il était question de liturgia, vont privilégier des mots qui évoquent le service. Et ils vont parler de ministerium, ou encore ministère, pour désigner l'officiant, parfois servitus, ou encore officium. Donc ce sont des termes qui évoquent la dimension de service et qui est bien, rappelez-vous, la signification originelle du mot liturgia en grec. Les auteurs latins vont également utiliser axio, le fameux terme axio, et en tout cas les plus âgés parmi nous se rappellent, avant le Concile Vatican II, on parlait d'une expression qui me terrorisait quand j'étais enfant, le canon de la messe. Maman, c'est quoi ce canon? Donc ma mère était bien embarrassée et je n'ai eu la réponse que bien plus tard, En fait, quand on parle du canon de la messe, alias la prière eucharistique numéro 1, c'est en fait un résumé, hein, puisque déjà à l'époque, on résumait les choses. Hein, aujourd'hui, c'est clair pour les jeunes, hein, on le dit sympathique, on dit sympa, peut-être même saint, donc c'est de plus en plus concis aujourd'hui. Hein. Peut-être que les SMS exercent une influence cachée. Et donc, en fait, il était question de la canon actionis, la règle de l'action. Car c'est ainsi que pendant longtemps, on a désigné ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie. C'était l'actio par excellence. Et il y avait une norme, il y avait donc un canevas pour célébrer la messe. Et donc c'était la règle canon actionis. On a laissé tomber le génitif et donc on a gardé le mot canon. Donc tout ça pour dire qu'on utilisait à côté de ministerium ou officium des termes tels que actio, celebratio, mysterium, sacramentum ou encore cultus et ritus. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut y étendre sa livre pour des choses qui sont peut-être très intéressantes mais qui ne nous concernent pas trop? Minute. En fait, les termes que je viens de vous dire, notamment cultus et ritus, désignent bien, hélas, l'aspect extérieur des choses. Si vous voulez, c'est l'enveloppe. Si vous prenez l'exemple de la noix et sa coquille, en fait, on désigne par là la coquille et pas la noix. Et le plus souvent, pour dire qu'il s'agit de choses précises et sacrées, on accompagne ces termes par les adjectifs divinus ou ecclesiasticus, le culte divin, exemple, ou le rite ecclésiastique. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, même si je ne connais pas fort le latin, le mot liturgia existe quand même bien en latin. D'où vient-il? Mais en fait, ce décalque latin du mot grec liturgia n'apparaît qu'au XVIe siècle, à l'époque des humanistes. Et ils vont restreindre ce terme liturgia, du moins le sens de liturgia, au recueil de textes en usage dans la célébration de la messe. En fait, ils vont reprendre cela à l'usage byzantin, qui, rappelez-vous, désignait l'Eucharistie par, ou désigne toujours par liturgia, la liturgia, et ils vont désigner par le mot latin liturgia, ils vont désigner les textes nécessaires pour célébrer la messe à l'exclusion des autres sacrements. Donc, liturgie va recevoir le sens restreint de formulaire liturgique et devenir ainsi synonyme de ritus ou encore de cérémonia. Et voilà ce qui va favoriser la compréhension de la liturgie comme l'aspect extérieur de manifestations cultuelles. Et donc, liturgia va alors servir à désigner un ensemble de rites, un ensemble rituel déterminé. Et c'est pourquoi on parle de liturgie gallicane, pour les Français parmi vous, ou encore de liturgie romaine, ou encore de liturgie hispanique, de liturgie ambrosienne. Donc on emploie bien le mot liturgie pour désigner un ensemble de rites, un ensemble de formulaires, entre guillemets, de sacramentaires ou de rituels qui désignent en fait l'aspect extérieur des manifestations cultuelles. Et cette équivalence, si vous voulez, entre liturgia et culte, l'aspect extérieur, va se maintenir largement jusqu'à Vatican II, non seulement dans l'usage commun, dans l'usage qu'on en fait chez le chrétien de la rue, si l'expression existait, mais également dans les organisations ecclésiastiques. Quand vous entendez des prêtres vénérables parler, donc dans une réunion de prêtres, quand vous les entendez évoquer des cours du séminaire, et quand ils prononcent le cours de liturgie, ils commencent déjà à rigoler avant même d'avoir rappelé le moindre souvenir. Parce que, semble-t-il, c'était en général relativement hilarant, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que C'était un cours de rubriques. Et donc, en fait, on expliquait comment respecter les rubriques. Et, semble-t-il, il y avait des situations, on expliquait des situations tout à fait inédites. Par exemple, une mouche tombe dans le vin consacré, qu'est-ce qu'on fait? Alors, grâce à Dieu, tous les cours de liturgie dans tous les séminaires ou les congrégations religieuses n'étaient pas de ce niveau-là. Mais cela a souvent été le cas, en tout cas ça me frappe encore aujourd'hui, dans des rencontres de prêtres diocésains d'un certain âge, le cours de liturgie n'était pas le cours, si on aimait beaucoup, parce que c'est un cours où, semble-t-il, on chahutait. Donc voilà pour l'évolution du terme qui en fait va regrouper la dimension extérieure du culte et pour pouvoir désigner l'ensemble des sacrements, pas simplement la messe, on va chercher un terme générique si vous voulez et on va privilégier de plus en plus jusqu'au Concile Vatican II le terme cultus en latin ou en anglais worship. Alors, le fait qu'on ait privilégié ce terme cultus, culte, va avoir des conséquences importantes sur la manière de comprendre et de vivre la liturgie. Et cela, essentiellement, à la suite du théologien bien connu, saint Thomas d'Aquin. Et en réalité, ses disciples, déjà saint Thomas, et ses disciples vont considérer le culte, le cultus rendu à Dieu comme un dû, comme un devoir, au même titre que d'autres obligations que l'homme se doit de rendre à Dieu, puisque Dieu est le créateur des hommes. Et donc, on a rattaché le culte à la justice, qui consiste en fait à rendre à chacun ce qui lui est dû. Le raisonnement est relativement aisé à comprendre. Puisque Dieu est le créateur des hommes, les hommes doivent reconnaître qu'ils ne sont pas à eux-mêmes leur propre origine, ils doivent reconnaître Dieu comme créateur. Et dans cette obligation de rendre à Dieu ce qui lui est dû, à savoir de le reconnaître comme créateur, il y a, et c'est justice pour l'homme, il y a le culte à rendre à Dieu. En fait, Thomas d'Aquin va s'appliquer à proposer ce qu'il appelle la vertu de religion comme passerelle entre la justice et le culte, faisant de la religio une partie annexe de la justice. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque ça? Eh bien, la conséquence, c'est ceci. C'est que, je me répète, l'homme étant créé, orienté vers Dieu, la vertu de religion consiste à maintenir l'homme dans cette attitude habituelle d'ouverture à Dieu. C'est aisé à comprendre. Et donc le culte participe à ce mouvement. Le culte, c'est ce que l'homme est obligé, en fonction de son état de créature, à rendre à Dieu. Cette obligation, l'homme le rend volontairement. Donc mon insistance porte là-dessus. C'est que, fondamentalement, cette réflexion sur ce que nous appelons aujourd'hui la liturgie en termes de culte va souligner, trois fois au bic rouge, si ça existait au Moyen-Âge, que le culte part de l'homme et se tourne vers Dieu. Il n'y a qu'à vouloir. Alors, cette compréhension-là, me semble-t-il, reste très très présente dans le monde d'aujourd'hui et donc dans une partie de notre propre cœur ou de notre propre conscience. Au cours de la première moitié du XXe siècle, il y a de nombreuses définitions qui ont été données à la liturgie et on s'est intéressé à la liturgie, et particulièrement en Belgique, mais pas seulement, notamment grâce au fameux mouvement liturgique initié par Don Lambert Baudouin. Pour tous ceux qui ne s'occupaient pas spécialement de liturgie, la fonction de la liturgie était en fait de revêtir le culte chrétien de formes extérieures susceptibles de mettre en valeur le contenu de la foi et de faciliter l'intelligence de ce contenu de la foi auprès des fidèles par, si possible, un certain plaisir esthétique. Au fond, la liturgie ainsi comprise, C'est une forme de pédagogie par les sens pour rappeler aux fidèles les données théologiques qui sont toutes faites par ailleurs, puisque à l'époque la liturgie intervenait extrêmement peu dans la fixation du contenu même de la liturgie, de la théologie. Quant à ceux qui se montraient attentifs à la célébration de la liturgie comme telle, ils retenaient surtout l'aspect normatif édicté par l'autorité de l'Église. Au fond, pour cela, la liturgie, c'est un champ d'exercice de la discipline ecclésiastique, et en particulier du magistère romain. Alors, cette compréhension, au fond, très tournée vers l'homme, c'est-à-dire l'homme devant se tourner vers Dieu, en fait, on souligne qu'il y va de la justice, que l'homme se tourne vers Dieu, donc en fait, on appuie, on accentue la volonté humaine. Cette compréhension-là va être profondément modifiée par le Concile Vatican II, mais le Concile Vatican II, dans sa célèbre constitution sur la liturgie, qui date de 1963, va en fait récolter le fruit de travaux, de tendances, de mouvements qui l'ont précédé, sans remonter au grand mouvement initié par Don Guéranger, Prosper Guéranger en France, autour de Solesmes, où déjà il a essayé à sa manière de mettre davantage la liturgie à la portée des chrétiens pour qu'ils s'en nourrissent et que leur spiritualité s'en imprègne. Il y a eu une influence importante du mouvement liturgique qui a démarré ici en Belgique et puis qui s'est rapidement étendu pour une part en France, beaucoup en Allemagne, en Autriche et ailleurs. Alors, dans ce climat-là de réintérêt à la liturgie, à lumière des Écritures et des Pères de l'Église, il y a un nom qui émerge, c'est Don Casel. Oh, Don Casel. C'est un moine bénédictin allemand, 1886-1948, pour ceux qui aiment un repère historique, et qui, en réalité, dans ses travaux autour de la notion si présente chez les pères de l'Église et dans la liturgie chrétienne, à savoir la notion de mysterium, dont on parlera la fois prochaine, à partir de 1922, Don Casel va découvrir, et de plus en plus, que la liturgie peut et doit être étudiée en tant que célébration. À ses yeux, la liturgie est d'abord et avant tout une action sacrée. Il s'y passe quelque chose. Donc il va sortir la liturgie de l'extériorité, de la pure extériorité célébrationnelle, si les mots existaient en français. Il va sortir la liturgie d'un pur rubricisme pour souligner qu'au cœur de la liturgie, une action se passe, une action a lieu. Et cette action, c'est fondamentalement, dira Don Casel, une action divine qui au départ est cachée et qui, depuis la mort et la résurrection de Jésus, est révélé dans l'intention de faire participer les célébrants à la réalité célébrée elle-même. Donc vous avez ici l'origine de ce qui va devenir la grande accentuation du Concile Vatican II, à savoir la participation active des fidèles à la liturgie. Ce n'est pas Vatican II qui l'a inventé, mais on l'a fortement remis en honneur, comme vous le savez, dans la réforme liturgique initiée par Vatican II. Et donc, Casel redécouvre, et je dis redécouvre parce qu'en fait, c'est une notion qui est très chère au Père de l'Église et qu'on retrouve abondamment. Casel redécouvre que la liturgie est une action divine qui est révélée dans le but de faire participer les célébrants à la réalité célébrée elle-même. Et Casel va ainsi découvrir et c'est ici qu'il a définitivement marqué l'objet de la liturgie chrétienne, que les composantes essentielles de la liturgie, ce sont trois choses. Primo, l'existence d'un événement primordial de salut, à savoir la résurrection du Christ. L'existence d'un événement de salut primordial, ou quelque chose de fondamental. Deuxièmement, la présence de cet événement grâce à un rite. Un événement de salut essentiel, fondamental, fondateur. Secondo, présent grâce à un rite. Et troisièmement, par cette présence rituelle, tout homme, quelle que soit son époque, peut faire sien cet événement primordial du salut. Tout homme peut donc, par cette présence rituelle, participer, bénéficier du salut donné dans cet événement qu'est la résurrection du Christ. Nous verrons en profondeur la fois prochaine, dans la mesure où on peut traiter les choses en profondeur en une heure, mais on insistera beaucoup la fois prochaine en parlant d'Esprit Saint sur l'importance de la résurrection comme fondement de la liturgie. Et à titre d'avant-goût, si je puis dire, comment ne pas se rappeler que ce qu'on appelle l'Eucharistie a été célébré prioritairement au début de l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui, obligatoirement en tout cas, non pas le jeudi soir, mais le dimanche. Il est clair que l'Eucharistie, dans son existence même, dans son origine même, s'enracine profondément dans le mystère du tombeau vide. Mais comment parler de la résurrection sans crucifixion, bien sûr. Et donc, à partir de ces trois caractéristiques de la liturgie pour Case, à savoir un événement fondateur, présent grâce au rite, et le participant au rite peut en bénéficier, précisément grâce à la ritualité, à partir de là, Casel pense que la liturgie, du fait même qu'elle prend la forme d'un mystère, que la liturgie se définit, dit-il, comme le mystère du Christ et de l'Église. Et je le cite, « La liturgie, dit Casel, est l'action rituelle de l'œuvre salvifique du Christ, présence sous le voile des symboles de l'œuvre divine de la rédemption. » C'est extrait d'un livre que plusieurs d'entre vous, sans doute, ont lu « Faites ceci en mémoire de moi », qui a été traduit en français en 1962 déjà. Toute bonne bibliothèque, donc celle de l'IAT, possède cet ouvrage. Il est clair que cette conception-là, ce qu'on appelle la conception caselienne de Casel du salut, cette conception-là de la liturgie, va profondément bouleverser l'idée même de culte. Car dans cette vision-là, le culte n'est plus en premier lieu l'action de l'homme qui cherche un contact avec Dieu au travers de l'hommage de son adoration, mais au contraire, l'action liturgique est un moment de l'action salutaire de Dieu. L'action liturgique n'est pas fondamentalement d'abord l'homme qui prend l'initiative d'aller à la messe, mais c'est fondamentalement Dieu qui invite l'homme à participer à son action du salut. C'est fondamental ceci, du reste pour tout sacrement. De telle sorte que l'homme soit à même de louer Dieu et de l'adorer en esprit et en vérité, grâce à son assomption, à sa reprise dans le mystère du Christ, rendu réellement présent au travers du rite. L'acte de Dieu qui sauve en Jésus-Christ, sous le voile des événements historiques, dit Casel, a lieu maintenant sous le voile des symboles cultuels de l'Église, et il aime à ce sujet citer Saint Grégoire le Grand. Nous avons part aux événements, dit Casel. Nous avons part aux événements non seulement en pensée et par grâce, mais en participant à l'acte même du Christ. En participant à l'acte même du Christ. Au point, dit-il, que toute célébration, c'est intraduisible en allemand, est un mit-tun, littéralement un faire avec, un agir de l'épouse avec le Seigneur. Nous viendrons là-dedans sur cela parce que La dimension ecclésiologique des sacrements est absolument essentielle comme de liturgie et elle est très très mal menée dans beaucoup de situations pastorales, puisque l'Église est souvent très mal aimée. Et donc, lorsque, sous prétexte de faire jeûne ou pour être in ou à la mode ou que sais-je, lorsque on veut proposer des célébrations qui en fait éloignent la dimension ecclésiologique, en fait, on est dans autre chose. Car cette dimension ecclésiologique fait partie intrinsèquement, pas seulement disciplinairement, elle est intrinsèquement impliquée dans tout sacrement et dans toute liturgie, dans la mesure où on suit avec Kasel que la liturgie est foncièrement un mit-tun, un agir de l'épouse avec le Seigneur. Je reviendrai longuement là-dessus, et probablement aussi que Mgr de Kiesel, qui abordera l'aspect ecclésiologique de l'Eucharistie, l'abordera aussi avec talent. Et donc, il suit de là que la participation active des fidèles, tant réclamée par Vatican II, n'est pas seulement une méthode psychologique ou une méthode pédagogique pour moins s'ennuyer à la messe. Mais quand on parle de participation active des fidèles, il s'agit de l'agir conjoint du Christ et de l'Église. Quand vous allez voir le texte en latin du Concile dans la Constitution sur liturgie, il est question de participatio actuosus des fidèles. Non pas active, ce n'est pas une participation active, hein, du genre un vicaire moderne bien branché qui active les choses, mais en employant le terme actuosus, on fait référence à l'action de Dieu qui invite à notre réaction, à notre réponse. La liturgie, comme tout sacrement, est fondamentalement responsoriale dans ce sens-là. Alors, pour terminer, puisque l'heure avance, je vous disais que célébrer est essentiellement une action, et c'est très précisément, on y reviendra, une action corporelle. La justesse des gestes, la justesse des paroles, la justesse des attitudes suppose un travail sur le corps, et donc une formation, un apprentissage chez ceux et celles qui accomplissent ces divers tâches. Une équipe liturgique, et bien entendu aussi celui qui préside à la célébration liturgique, eh bien, l'équipe liturgique, comme le président de la célébration, doivent se soucier du rapport aux déplacements, aux gestes, aux postures, aux paroles, aux objets, bien sûr. Mais il faut encore clairement avoir à l'esprit que la liturgie chrétienne ne procède pas, ne fonctionne pas par une sorte de langage codé, fait de symboles et de signes crypté qu'il faudrait décrypter. En fait, la liturgie chrétienne est d'abord le lieu de rencontre du ressuscité où le peuple prend corps et devient davantage Église. Ceci est absolument essentiel. Le premier acteur de la liturgie, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui fait renaître. C'est lui qui sanctifie le pain et le vin. C'est lui qui fait de nous un seul corps. On reviendra sur la double épiclèse, comme les spécialistes appellent cela, la double invocation spéciale de l'Esprit Saint au cœur de la prière eucharistique. C'est lui, l'Esprit Saint, qui est à l'œuvre en chacun de nous et qui fait l'unité. Ainsi, lorsque la liturgie se donne à voir et à toucher, c'est pour l'action de l'Esprit qu'elle le fait. Et l'art de célébrer sera l'art de permettre de favoriser, de susciter l'action de l'Esprit-Saint en chacun de nous. Et alors, on peut mieux mesurer le rôle des ministres, des animateurs en liturgie. Non pas de faire faire, et encore moins de diriger. Non pas de faire comprendre ce qu'eux-mêmes ont compris, mais simplement de mettre en œuvre afin de laisser place à l'Esprit, pour qu'il guide chacun dans la rencontre du Seigneur et de ses frères. Et donc, c'est un aspect essentiel. L'Esprit va se servir de nos mots, de nos gestes, de nos objets. Et à ce titre, comme ils vont devenir pneumatophores, ces mots, ces gestes, ces objets, ils doivent être soignés ô combien. Et en outre, ils doivent bien entendu recueillir, l'identité, la présence de ceux qui sont rassemblés pour le culte, pour la liturgie. Mais l'essentiel, eh bien, l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ce que nous verrons la fois prochaine, en parlant d'Esprit Saint, et en vous rappelant le rôle absolument décisif de l'Esprit Saint déjà au matin de Pâques. Et c'est ce rôle-là qui va être, pour une large part, repris et fameusement amplifié à chacune de nos liturgies, en particulier au cœur de l'Eucharistie. Voilà, il est 21h30, on avait convenu d'un petit break, et les plus pressés parmi vous peuvent peut-être filer à l'anglaise, comme on dit, et puis ceux qui le souhaitent, je resterai volontiers un moment encore pour des questions.